Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.
Donc Alexandre Najar, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce Franska podden de l'ambassade de France en Suède. Nous avons la chance de vous accueillir ici, dans ce bel endroit qui est l'accélérateur de l'université de Stockholm, à l'occasion de la conférence que vous avez donnée ce matin sur la situation de votre pays, le Liban, et au sujet aussi de la parution de votre dernier ouvrage, La couronne du diable, qui traite de la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement. Je vais donc vous laisser la parole, Alexandre, pour que vous présentiez à nos auditeurs.
D'abord, bonjour, merci de m'accueillir sur cette plateforme. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être en Suède pour rencontrer mes lecteurs. Je suis donc avocat de profession, je suis écrivain de langue libanais, mais d'expression française. Je suis né à Beyrouth en 1967. J'ai écrit une trentaine d'ouvrages qui sont traduits dans pas mal de langues, dont le suédois. J'ai notamment écrit un livre, un récit de voyage sur la Suède qui s'appelle « Les anges de Miss Gordon », un livre sur la guerre du Liban qui s'appelle « L'école de la guerre » qui a été traduit en suédois. Et donc, je dirige aussi un journal qui s'appelle « L'Orient littéraire » qui paraît à Beyrouth. Et j'ai obtenu plusieurs prix littéraires au Liban, en France, voilà.
Merci. La plupart d'ailleurs de vos œuvres sont écrites en français.
Oui.
Certaines sont écrites en arabe aussi, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance justement que revêt la langue française pour vous ?
D'abord, le Liban est un pays très francophone puisque 65% des élèves dans les écoles ont le français comme deuxième langue. Donc c'est une langue très présente au quotidien. La plupart des Libanais parlent évidemment l'arabe, mais aussi le français et même l'anglais. Et moi, donc c'est un environnement naturel donc, d'apprendre le français. Mais moi, en fait, ce qui m'a beaucoup motivé à écrire dans cette langue, d'abord, c'est que à la maison, on avait une bibliothèque très fournie en livres français. Et puis, petit à petit, en lisant, j'ai eu envie d'écrire à mon tour. Et j'ai senti que la langue française correspondait très bien à ma sensibilité. Je dis toujours que je suis tombé amoureux d'elle comme d'une femme, parce que c'est une femme très belle et attachante, quoique des fois capricieuse, parce qu'elle a des difficultés, évidemment, comme chaque langue. Mais en même temps, les difficultés de la langue française, ou ses pièges, comme on dit, sont passionnants. Parce qu'en fait, si c'était quelque chose de très normal, de très habituel, ce ne serait pas très motivant. Je pense que c'est comme un exercice permanent de rester à la hauteur de cette langue, d'essayer toujours de découvrir ses secrets, ses pièges. Et c'est très exaltant, c'est très enthousiasmant de pouvoir toujours découvrir de nouvelles choses dans cette langue. Et en même temps, la langue française est porteuse de valeurs. Je pense à cette tradition de défense des libertés qu'elle a toujours eue depuis Voltaire jusqu'à nos jours, en passant par Sartre, Camus, Montesquieu, Rousseau. Donc tout cela est très cohérent pour moi. Et donc écrire en français, c'est donc une histoire de passion pour cette langue, mais c'est une question de revendication pour les valeurs qu'elle comporte, pour cette tradition. Donc je m'inscris dans cette tradition-là, je revendique les valeurs, les idées qu'elle a toujours véhiculées pour écrire dans cette langue. Et en même temps, je reste fidèle quand même à mes origines, parce qu'à travers cette langue, je permets un dialogue avec mon public francophone, et ensuite à travers les traductions avec un autre public, pour transmettre mes idées libanaises, de parler de Beyrouth, de parler de la guerre, de parler de ce que nous vivons, et de permettre un peu cette transmission, ce dialogue entre nous.
Justement, lors de la récente explosion de Beyrouth, donc en août dernier, après cette explosion, il y a eu un élan de solidarité internationale, mais aussi français. Est-ce que, selon vous, partager cette même langue peut accentuer le ciment d'une compréhension, d'une empathie plus forte?
Certainement. D'abord, entre la France et le Liban, c'est une longue histoire d'amitié. Lorsqu'il y a eu cette explosion, la France a été l'un des premiers pays à courir au chevet du Liban. Le président Macron s'est déplacé deux fois, notamment le 1er septembre, pour aussi célébrer dans la foulée le centenaire de la naissance de ce qu'on appelle le Grand Liban. Et ensuite, même les écrivains francophones se sont montrés très solidaires, notamment à travers ce supplément de mon journal, donc L'Orient littéraire, où une vingtaine d'écrivains francophones, et non des moindres comme Le Clésio, Tahar Benjelloun, Laurent Godet, Daniel Rondeau, Dany Laferrière, plusieurs académiciens donc, ont écrit dans ce journal pour exprimer leur solidarité avec Beyrouth. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir cela. Et là, les éditions Fayard publient un livre qui va s'intituler « Pour l'amour de Beyrouth », qui comporte, outre ces textes qui ont été repris de L'Orient littéraire, d'autres aussi, qui sont pas seulement d'écrivains, mais aussi d'artistes ou d'acteurs, qui connaissent le Liban et qui ont voulu aussi s'associer. Et je crois effectivement que c'est cette parenté-là, à travers la langue française que nous avons en partage, et aussi ces liens d'amitié qui remontent quand même à très loin.
Et justement, vous avez beaucoup écrit aussi sur la francophonie.
Oui.
Est-ce que la francophonie, à votre avis, peut jouer un rôle important dans les soubresauts du monde actuel?
Certainement. D'abord, j'insiste sur l'idée que la francophonie n'est pas une coquille vide. Elle n'est pas non plus quelque chose en perdition ou en recul, parce que tous les démographes prouvent que la francophonie a encore de bons, beaux jours devant elle, notamment à cause de la démographie galopante en Afrique francophone, où il y aura beaucoup de locuteurs de français qui vont venir dans les années futures. Et tout cela va enrichir évidemment encore plus la francophonie de nouveaux locuteurs. Cela dit, la langue française est parlée plus ou moins dans presque 80 pays. Et donc, c'est une langue donc, qui existe un peu partout dans le monde. Ce n'est pas une langue comme d'autres qui sont limitées à un seul pays. Donc là, la France et la langue française a la chance d'être donc, sur plusieurs continents. La diaspora libanaise, d'ailleurs, se trouve dans beaucoup de pays francophones, en Afrique, au Canada, en Belgique, en Suisse et évidemment en France. Et tout cela fait que c'est une francophonie réelle, donc géographiquement qui correspond à quelque chose de réel, mais surtout aussi ces pays qui ont la langue française en partage enrichissent tous la littérature française, chacun a son apport qui est singulier. Et aussi, je pense que la francophonie ne doit pas être seulement culturelle, elle peut être économique, donc aussi créer des liens économiques entre ces pays. Elle peut être politique aussi sur certains sujets, et elle doit être aussi au niveau de la démocratie, des valeurs. Elle doit être aussi une sorte de plateforme pour la défense des valeurs républicaines, pour la défense de la démocratie, notamment dans certains pays d'Afrique où malheureusement les régimes ne sont pas toujours très démocratiques et où il est important qu'il y ait une certaine solidarité ou bien une reconnaissance de la défense de certaines valeurs. Donc je pense que la francophonie a plusieurs visages, qu'elle est multiforme donc, et qu'elle correspond à quelque chose de réel, parce que ces pays qui ont la langue française en partage ont beaucoup d'affinités, ils ont cette passion déjà pour la langue, mais aussi pour la défense de valeurs qui existent autour de cette langue.
Oui, ces valeurs d'ailleurs qui rejoignent pour vous l'engagement de l'écrivain, en fait.
Tout à fait.
Cet engagement qui est très important pour vous, cette idée de responsabilité, en fait, de l'écrivain et du témoignage chez Camus aussi, hein, dont vous parlez souvent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette responsabilité qui, selon vous, incombe à l'écrivain ?
Moi, je pense que beaucoup d'écrivains ont démontré l'importance de cela. Je pense notamment à Victor Hugo ou Lamartine, aussi à Camus, à Sartre. Il y a chez l'écrivain, comme vous l'avez dit, une responsabilité. Il ne peut pas rester les bras croisés devant ce qui se passe autour de lui. Il a un rôle à jouer. Il doit être un éveilleur de conscience. Il doit témoigner, parce que le témoignage, comme disait Camus, était la meilleure réponse au crime. Et donc, j'ai toujours pensé avec Sartre que l'écrivain doit être en situation dans son époque. Il utilisait toujours cette formule. Et donc, je crois que l'écrivain doit s'engager, doit dénoncer les injustices, doit défendre des causes, sans pour autant, à mon avis, s'engager politiquement, parce que les politiques changent. Mais alors que les idéaux, les principes demeurent. Donc il doit beaucoup plus défendre les libertés publiques, les principes, plutôt que de s'engager dans des partis ou des idées politiques qui peuvent être fluctuantes. Ou, voilà. Et donc, je suis très convaincu de cela. Et je pense aussi aux écrivains de la Résistance, les poètes de la Résistance, qui ont publié aux éditions de Minuit, par exemple, un livre qui s'appelle « L'honneur des poètes ». Donc pour moi, ça reste un exemple, ce livret qui avait été publié. Beaucoup d'écrivains donc, aussi ont toujours défendu cette idée d'engagement, et je souscris totalement à cette idée.
Oui, c'est d'ailleurs dans cette idée que vous inscrivez dans vos éditos, mais aussi dans votre dernier ouvrage, donc « La couronne du diable », où vous témoignez aussi un peu de ce qu'on vit actuellement.
Exactement. Avec le COVID-19. Je pense que cette pandémie est quelque chose de très douloureux, et un écrivain ne pouvait pas aussi observer cela sans témoigner, sans parler, sans réfléchir sur ce phénomène-là. Donc je l'ai fait à travers ce roman, donc qui n'est pas une étude scientifique, qui est une œuvre littéraire, et j'espère qu'il plaira au lecteur.
Merci Alexandre. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se procurer certains de vos livres qui sont disponibles notamment dans une librairie, la Stureplan, à Stockholm, notamment L'école de la guerre, qui a été traduite en suédois.
Exactement.
Merci, à bientôt Alexandre.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.